L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Mismatch, l'émission dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo. Elle est destinée aux professionnels, aux néophytes du média, mais aussi aux joueurs et joueuses. Je suis Damien Farjou, game designer de formation, consultant d'accessibilité de jeux vidéo et président de l'association Dear Valid People. Chaque semaine, nous mettrons en lumière, ensemble, chaque pièce du puzzle formant ce jeune domaine qu'est l'accessibilité de jeux vidéo. Étant moi-même handicapé, ma formation mêlée à mon expérience de vie m'ont amené à me spécialiser sur le sujet. Pour ce dernier épisode avant la conclusion de fin de saison, je reviens sur des features d'accessibilité cognitive. C'est un sujet vaste, complexe et loin d'être uniforme. Rappelons que la cognition est le processus de compréhension d'un individu. Il peut être impacté de manière plus ordinaire par la fatigue, l'âge et autres. L'expression d'un même handicap cognitif est très différente d'une personne à l'autre. Chaque handicap possède son spectre, mais celui-ci peut être le plus grand, et nous cherchons à mettre des étiquettes à chaque partie. TDAH, trouble 10, autisme et bien d'autres. L'un des challenges dans la pratique du jeu vidéo est la gestion du contrôleur mais aussi des tâches au sein du jeu. Comme je l'ai déjà dit, le jeu vidéo actuel demande d'utiliser de plus en plus de touches sur une manette ainsi que de devoir en combiner plusieurs. Cela ne représente pas qu'un challenge au moteur. Devoir se rappeler des différents boutons ainsi que de se rappeler de leur rôle est une tâche complexe. Elle est d'autant plus en situation de jeu où le joueur doit réagir en un minimum de temps. Le stress amené par cette pression temporelle peut exacerber les effets d'un handicap cognitif. Modifier la vitesse du jeu est une solution efficace, autant que dans le cas de l'accessibilité motrice. En ce qui concerne la mémorisation, il est possible de maintenir affichée une manette, ses touches, les différentes actions associées à l'image du premier Assassin's Creed. Dans certains jeux, il est aussi possible d'afficher des objectifs pour aider à réguler la gestion des tâches. Depuis le début, le jeu vidéo a toujours eu des liens intimes avec une certaine catégorie de joueurs, les joueurs épileptiques. L'exemple qui me vient à l'esprit est le message d'avertissement à destination des personnes épileptiques. Il a toujours existé, il remet la responsabilité aux joueurs sans proposer de réelles solutions. L'épilepsie reste très méconnue, même dans le monde médical. Le risque zéro n'existe pas, elle peut être déclenchée par bien plus que des flashs lumineux. Mais la limiter et proposer des alternatives autres que de ne simplement pas jouer est une étape possible. Dans le cas des flashs lumineux, il faut donner la possibilité de les désactiver ou de réduire leurs effets. S'ils trop intenses, ils peuvent devenir gênants, à la manière de la neige dans Stardew Valley. Pour représenter la saison hivernale, une neige omniprésente qui tombe et juxtapose à l'écran. En plus de limiter la visibilité, l'omniprésence de la neige qui tombe simule les effets d'un flash lumineux. Un curseur permet alors de modifier sa transparence et donc son effet. Les feedbacks sonores peuvent produire les mêmes effets négatifs, d'où la possibilité de pouvoir modifier le volume suivant différents axes. Musique, bruitage, dialogue, etc. Certains jeux comme Candy Crush ou Dodge Mobile peuvent se servir d'effets visuels accrus comme récompense aux joueurs. Et désactiver enlèverait donc cette récompense, qui n'en est pas dans notre cas, et demanderait à en réfléchir de nature. Cela revient à parler de ce design flexible que l'on a déjà mis en avant ici, avec différents points d'entrée dans l'expérience et aussi de sortie. Au-delà des effets visuels ou sonores, certains contenus peuvent interrompre l'expérience de jeu. Ils en suggèrent des messages d'avertissement pour prévenir le joueur. Dans une certaine mesure, le système PEGI prend aussi ce rôle avec l'âge conseillé, des pictogrammes signalant le type de contenu trouvable dans le jeu. Pour aller plus loin, certains jeux comme Dead Space Remake proposent un système de content warning. Il permet de flouter les éléments potentiellement traumatisants du jeu, comme des scènes de suicide ou de violence. Pour offrir toujours plus de choix, il est possible de simplement activer un système de notification en jeu prévenant les dites scènes. Dans la même idée, Grandit propose de modifier l'esthétique des ennemis araignées pour les joueurs arachnophobes. Pour finir, je souhaite mentionner un sujet particulier, la représentation de la santé mentale. Le handicap mental est encore très stigmatisé aujourd'hui et le jeu vidéo y contribue malheureusement, notamment dans sa représentation des hôpitaux psychiatriques. Il est souvent le terrain d'action des jeux d'horreur, renforçant le stéréotype d'un lieu peu accueillant, source de stress et d'angoisse. Pour équilibrer, le jeu Hellblade est salué par la communauté des joueurs concernés pour sa justesse de représentation du handicap mental que l'héroïne vit. Pour le prochain et dernier épisode de la saison, je vous en proposerai un sortant de l'ordinaire. Je vous donnerai mes raisons personnelles quant à la création de cette chronique, ainsi qu'un avis global sur l'accessibilité des jeux vidéo. Selon moi, il a encore besoin d'évoluer, d'assumer certains aspects du domaine pour montrer la totalité de son impact. Venez d'écouter Mismatch, une émission créée par un concerné pour des concernés.
L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle blanc hétérosexuel valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.